France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Et si un jour on pouvait traiter chaque personne malade avec ses propres cellules? C'est l'horizon ouvert par la recherche autour des cellules souches. On en parle aujourd'hui. Imaginez pouvoir guérir d'une maladie grâce à une cellule prélevée sur votre peau que des chercheurs auront reprogrammée. C'est l'idée pas si farfelue derrière les thérapies à base de cellules souches qui pourraient un jour faire partie de l'arsenal d'une médecine 100% personnalisée. Si cette méthode n'est pas encore généralisée, c'est qu'elle est encore complexe et que redonner une jeunesse à une cellule adulte n'efface pas nécessairement sa vie et les mutations épigénétiques associées. Quelles études récentes alimentent tout de même l'intérêt brûlant autour de ces cellules et pourquoi en dehors des thérapies, les cellules souches constituent-elles des modèle particulièrement prometteur d'études au laboratoire. Thérapie cellulaire, ça coule de souche. Bonjour Cécile Martina.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche INSERM, co-directrice de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques ISTEM à Évry. Et vous êtes par ailleurs pilote du programme national PEPR, biothérapie et bioproduction. Bonjour Pierre Nassois.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire photonique, numérique et nanosciences, le LP2N à Bordeaux. Vous êtes fondateur de la start-up TriFrog Therapeutics et vous êtes médaille de l'innovation CNRS 2022. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @sciencecqfd. Alors, on va pas commencer, comme tous les jours, par une archive, mais on va faire un petit cours de biologie pour commencer avec vous, Cécile Martina, parce que c'est un peu nécessaire quand on parle de cellules souches. C'est pas forcément un sujet que tout le monde maîtrise et que tout le monde connaît bien. On va, si vous voulez bien, faire un petit peu de typologie et voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est d'abord une cellule souche et quelles sont les grandes familles de cellules souches.
Alors, une cellule souche, par définition, elle se définit par deux propriétés. La première, c'est sa capacité à s'auto-renouveler. Et la deuxième, c'est sa capacité à donner naissance à d'autres cellules. Donc, il faut savoir que tout au long de notre vie, on a des cellules souches. Nous, en tant qu'adultes, on a des cellules souches. Pour preuve, on va se blesser au niveau de la peau, on va cicatriser parce qu'on a des cellules souches au niveau de la peau qui vont, en fait, recréer de la peau toute neuve. Et puis, alors ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des cellules souches unipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner que des cellules de la peau. On peut avoir des cellules souches multipotentes qui vont donner quelques types de cellules un peu différents. Et puis, plus on va rajeunir, entre guillemets, et plus on va avoir des cellules qui vont être capables de donner beaucoup plus de cellules. Et c'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Donc, ce sont des cellules qui correspondent à un stade développemental assez limité, hein, c'est entre 5 et 7 jours après la fécondation in vitro. Et ces cellules, elles ont les propriétés de pouvoir donner naissance à tous les types cellulaires que vont former un organisme. Mmh. Et à nouveau, on peut les comparer et les différencier d'une cellule souche totipotente, qui est l'œuf fécondé, qui lui va donner à la fois le placenta et le fœtus.
Qui va donner toutes les cellules. C'est vrai que c'est toujours intéressant de se rappeler qu'à partir de ces cellules souches, de ces deux catégories de cellules souches dites embryonnaires, toutes les cellules naissent et se développent.
Exactement.
Alors, ça c'est intéressant, enfin, je le disais à l'instant, donc je parlais de cellules souches embryonnaires, il faut bien faire la distinction entre cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes. Comment on peut faire ce distinguo-là et voilà, comment ça va nous éclairer dans la suite de notre discussion?
À nouveau, en fait, la grosse différence, ça va être dans leur capacité à se multiplier. Où les cellules souches embryonnaires, elles ont cette capacité incroyable de se multiplier à l'infini et elles sont capables de se différencier dans n'importe quel type de cellules. Donc elles peuvent faire des cellules du muscle, elles peuvent faire des cellules des neurones, des cellules de la peau, des cellules de la rétine, des cellules du pancréas. Voilà, c'est vraiment en fonction de la façon dont on va les traiter dans nos laboratoires, on va pouvoir les pousser à donner naissance à tous ces types cellulaires différents.
Qu'est-ce qui fait qu'une cellule souche adulte, pour le coup, va se renouveler pour reproduire? Qu'est-ce qui, dans son programme génétique, finalement, va faire en sorte qu'elle redonne la même cellule?
Ça va être l'environnement. Mm-hmm. En fait, elle est dans un environnement extrêmement défini, dans une niche. Et c'est cette niche, en fait, qui va maintenir ce pool de cellules souches et qui va, à un moment, envoyer des messages pour dire attention, il y a une lésion, il faut corriger, il faut réparer un peu l'organe. Mais à nouveau, c'est très dépendant du tissu. Au niveau du cerveau, on a très peu de cellules souches et on sait qu'on perd vraiment nos cellules souches neurales avec le temps. Alors qu'au niveau de la peau, pareil, ce pool de cellules souches va s'amenuiser à fur et à mesure de la vieillesse.
Depuis quand, Pierre Nassois, on s'intéresse à l'idée, puisqu'on a constaté cette capacité de régénération, par exemple de la peau, depuis quand s'intéresse-t-on à cette capacité-là pour s'en servir comme de thérapie ? Est-ce que c'est une vieille histoire ou est-ce que c'est quand même relativement récent dans l'histoire de la biologie ?
Alors, ça peut être considéré comme vraiment très très ancien, si on remonte à, aux histoires de transfusion sanguine, véritablement, qui, à partir du moment où on a pu distinguer les groupes sanguins A, B, O et les résus, on a pu comme ça faire des transfusions du sang total, complet. Et puis, il y a même eu un livre, moi quand j'ai découvert un peu ce domaine, il y a un livre d'un chirurgien dans les années 60, Paul Nyans, qui a écrit un livre sur thérapie cellulaire fraîche. C'est-à-dire, il utilisait soit des cellules fraîches, soit des cellules séchées. Et il n'y a jamais eu de preuves rigoureuses. Il était plutôt un peu apprenti sorcier, mais son livre est vraiment intéressant parce que il démontre à la fois la créativité, mais en même temps la folie. Et il injectait directement dans les organes, chez l'être humain, en intramusculaire, des cellules de fœtus animal.
De mouton, donc, même, je crois.
De mouton, ouais. Exactement. Et donc, là où il a été fort, c'est qu'il a quand même compris qu'il fallait aller chercher ça au niveau du fœtus, quoi. Au niveau des cellules souches embryonnaires. Alors après, bon, ça a dérivé sur des trucs où il voulait comme ça guérir toutes les maladies, y compris l'homosexualité, qui est considérée comme une maladie.
Donc là, oui, on constate quand même que l'homme était un petit peu tendancieux et un peu border quand même dans son approche. Cécile Martina, on est là au XXe siècle. La deuxième moitié du XXe siècle, et notamment les années 80, c'est vraiment le moment où on commence à réfléchir très très sérieusement au recours aux cellules souches d'un point de vue thérapeutique. Alors, quel type de cellules souches on va d'abord essayer d'utiliser, de reproduire pour des traitements ?
Alors, on va d'abord utiliser des cellules souches fœtales. Donc, Pierre l'a mentionné, en fait, il y a eu des essais chez des patients atteints de Parkinson avec des neurones fœtaux. Donc, ce sont des neurones qui commencent finalement qui sont nés, mais qui ne sont pas encore totalement matures. Et l'idée était de prendre en fait ces neurones sur des fœtus issus d'interruptions volontaires de grossesse et de les greffer. Donc, il y a eu plusieurs patients qui ont été greffés dans le cadre de la maladie de Parkinson, dans le cadre de la maladie de Huntington. Et ça a vraiment été les premières preuves qui ont permis de montrer de la faisabilité de ce type d'approche pour des maladies neurodégénératives. Le problème, c'est l'utilisation de fœtus, donc énormément de questions d'éthique, beaucoup de matériel, une organisation aussi qui était très compliquée. Il fallait... alors moi, j'ai pu assister à une intervention chez un patient, une Huntington, d'une greffe de neurones fœtaux qui était faite par le professeur Péchanski à l'époque. C'était une organisation qui était vraiment militaire. Il fallait récupérer les fœtus, récupérer vraiment la région d'intérêt, dissocier les cellules, les emmener en bloc opératoire et les greffer. Et en 2000, il y a eu une petite révolution, c'est que en 98, on a eu les cellules souches embryonnaires humaines qui ont réussi à être isolées en laboratoire, et là, ça a ouvert la porte à d'autres possibilités.
Avant de faire ce petit bond en l'an 2000, je vous propose de faire un tout petit retour dans les années 90, et avec notre archive du jour, on va entendre la voix de la professeure Eliane Gluckman, qui avait réussi, elle, avec son équipe en 1988, la première greffe de cellules souches hématopoïétiques, comme on dit, issue du cordon ombilical en 1993. Elle s'adressait sur France Inter, elle s'adressait au micro de France Inter, elle parlait de la création d'une banque de ce type de cellules souches.
Un nouvel espoir pour soigner les leucémiques ou les personnes irradiées, le sang de cordon ombilical. Il a les mêmes propriétés que la moelle osseuse. C'est pourquoi les médecins ont décidé de créer une banque européenne de sang de cordon ombilical. Le professeur Eliane Gluckman indique même à Daniel Messager que la méthode du sang ombilical est meilleure que la greffe de moelle osseuse.
On a besoin de moins, puisque pour faire une transplantation médullaire, il faut prélever 1 litre de moelle, qui est un mélange en fait de moelle osseuse et de sang. Alors que d'un accouchement, on peut recueillir 100 ml de sang présent dans le cordon et dans le placenta, et que cette quantité est suffisante pour obtenir une greffe aussi bonne qu'avec la moelle.
Alors quels vont être les avantages d'une banque européenne de sang de cordon ?
Eh bien, l'avantage est que nous allons pouvoir augmenter le nombre de donneurs possibles pour faire ces transplantations. Aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré les banques de donneurs volontaires, seulement 30 à 40% des patients peuvent trouver un donneur. Donc ceci sera un complément aux banques existantes. Donc ceci permettra plus facilement de répondre aux urgences médicales, hématologiques.
Voilà, là on parle de cellules souches multipotentes, les cellules du sang. Cécile Martina, quelle réaction provoque cette archive de 1993 et cette voix d'Eliane Gluckman?
C'est beaucoup de nostalgie. C'est aussi, moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de la recherche. Hein, c'est ce type de témoignage où, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une petite révolution dans le domaine de la médecine. Et c'est comme ça que moi j'ai eu envie, à la fin de ma thèse, d'aller sur ce type d'approche.
Pierre Lassoie, cette archive de 1993, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ?
Alors, moi, elle évoque surtout que depuis, il y a eu énormément d'avancées encore. Ouais. C'est vrai que peut-être que si on est dans le domaine à cette époque-là, on ressent de la nostalgie, mais les avancées ont été énormes depuis.
C'est là qu'on arrive du coup à ces années 2000 que vous évoquiez tout à l'heure, Cécile Martina. Quel bond fait-on à partir de ce moment-là ? Parce qu'on a parlé, donc là, on parle de cellules souches liées au cordon ombilical, on a parlé de cellules souches fœtales, puis il y a eu la question des cellules souches embryonnaires. Comment on glisse doucement vers les cellules souches à pluripotence induite qu'on va définir dans un instant ?
Alors, les cellules souches embryonnaires humaines, quand elles ont été pour la première fois isolées en laboratoire, je parlais de révolution parce que ça a été une révolution. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'on avait entre les mains des cellules qui étaient capables de se multiplier à l'infini et qui avaient un potentiel de différenciation en théorie quasi illimité. Alors, on ne savait pas encore bien le maîtriser, mais en tout cas, on sentait qu'il se passait quelque chose dans les laboratoires. Et ça ouvrait, moi je me rappelle, les premières revues sur le sujet, c'était, on avait l'impression de dire de la science-fiction quasiment. On se disait, mais on va pouvoir tout
à
faire, on va pouvoir,
ouais,
à l'infini, on va, bon.
On va pouvoir se régénérer à l'infini.
Exactement.
Quoi, c'est ça la promesse.
Ça soulevait quand même des questions, beaucoup de questions éthiques. Mmh. En France, les lois de bioéthique ont été compliquées. En 2007, en 2006 avec des cellules de souris, puis en 2007 avec des cellules humaines, il y a eu vraiment la révolution du professeur Yamanaka qui a réussi à convertir des cellules adultes dans des cellules qui présentaient les deux propriétés cardinales des cellules souches embryonnaires humaines, à savoir l'autorenouvellement et la pluripotence. Donc on n'avait plus besoin d'utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. On avait accès à nouveau de façon totalement illimitée à des cellules qui avaient les mêmes propriétés.
Voilà, alors ce travail-là a valu à Shinya Yamanaka le prix Nobel de médecine et physiologie en 2012, conjointement avec John Gordon qui en 62 lui montrait que chez les amphibiens, la différenciation en cellules spécialisées était réversible. Pierre Lassoie, il ne faut pas s'y tromper, on ne rajeunit pas non plus complètement les cellules, ces cellules souches à pluripotence induite, c'est-à-dire qu'on ne les rend pas plus jeunes, ce n'est pas une fontaine de jouvence dans laquelle on les plonge pour qu'elles soient à nouveau toutes fraîches.
Non, on les reprogramme. Alors au début, moi je disais, c'est complètement, ça me semble fabuleux, quoi, parce qu'on est capable de revenir dans le passé, quoi, de récupérer des cellules souches qui sont celles de notre propre embryon. Mais effectivement, c'est vraiment tout un travail de biologie où Yamanaka a rationalisé ça. C'est pas de la magie pure. Il est parti d'une combinaison de 20 facteurs de transcription qu'il avait choisi quand même. Alors les facteurs de transcription, peut-être c'est le fait de. Et au final, il en a fini avec 4. C'est le fait que sur l'ADN, on a pas mal de gènes. Plus de 20 000 gènes, mais il y en a que 15 000 qui sont exprimés. Et quand ils sont exprimés, ils donnent tel ou tel type de cellule et ça définit l'identité de la cellule. Et donc, lorsque la cellule embryonnaire se différencie, elle perd l'expression de certains gènes. Donc lui, ce qu'il a fait, simplement, avec un cocktail de 4 gènes comme ça, qui ont donné des facteurs de transcription, ceux-ci ont permis de rallumer, de réactiver l'expression de ces gènes, de pluripotence, etc. Mais c'est encore, finalement, un peu la même cellule.
Cécile Martina, sur cette question-là, alors c'est intéressant ce que dit Pierre Lassoie, moi ça me fait penser à ce que me disait tout à l'heure Noémie Naguette-Saint-Vulfranc qui a préparé cette émission avec brio et qui parlait de, justement elle me disait, c'est comme dans un orchestre en fait, finalement un neurone c'est le violon, une cellule du sang ça va être la timbale, et chacun a la partition de tout le monde, mais voilà, cette cellule va jouer que sa partition, et c'est ça finalement ce qu'expliquait à l'instant Pierre Nassouet, c'est ça finalement qu'arrive à faire Yamanaka, c'est finalement de réapprendre toute la partition et de la reproposer finalement à ces cellules souches à pluripotence induite. Est-ce que, voilà, immédiatement on va chercher à mettre en place des thérapies à partir de ces cellules souches?
Alors, immédiatement, peut-être pas, parce que à nouveau, il y a eu quand même un travail qui a dû être fait sur comment les maîtriser, ces cellules. Parce que même quand on y pense, les cellules souches embryonnaires humaines, ce sont des cellules qui n'ont pas pour vocation de rester pluripotentes. Ce sont des cellules qui, en deux jours, donnent naissance, vous commencez à donner les différents lignages que vont former, en fait, un embryon. Donc, il a fallu les maîtriser, ces cellules, il a fallu maîtriser à la fois leur caractère pluripotent, maîtriser leur capacité à se différencier. Donc, vous parliez de partition. Moi, je suis plus gourmande, donc je compare plutôt ça généralement à des recettes de cuisine, c'est-à-dire trouver la bonne recette de cuisine qui va pouvoir vraiment être capable de les retransformer en neurones, en cellules musculaires, en cellules de la rétine. Donc, mais c'est quand même allé très très vite, parce que quand on y réfléchit, 2007, donc les premiers papiers sortent avec les cellules humaines, vous avez mentionné 2012, il a reçu le prix Nobel. Les premiers essais annoncés étaient
2013. Ouais, c'est ça.
Et les essais avaient même commencé un petit peu avant, 2010, avec des essais sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Alors, quelle thérapie, en tout cas, quel type de pathologie était ciblée dans ces années 2010, Pierre Nassouet, et pourquoi ce choix de pathologie en question ?
Je crois la première qui a été ciblée au Japon, ça a été la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, en fait, là, il suffisait d'implanter des cellules rétiniennes pigmentées, épithéliales. Et ça s'est fait relativement bien, en fait, sur deux patients. Et il n'y a pas eu de problème, pas eu d'infection, pas eu de tous les autres problèmes sur lesquels on va peut-être revenir. Mais ça n'a pas eu d'effet, en fait. Mmh.
Voilà. Cécile Martina, on parle de ces cellules souches. Voilà, on va être très 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 raisonnable. Ce sont pas des miracles du tout. Elles ont des défauts. Alors si on doit d'emblée cibler le défaut principal de ces cellules souches à pluripotence induite, on va dire cellules IPS pour faire plus court, parce que sinon on va perdre du temps. Ces cellules IPS, quel est leur principal défaut ?
Elles sont instables. Elles sont instables en culture, c'est-à-dire que elles vont avoir tendance à acquérir des anomalies chromosomiques. Donc ça va être des petites pertes de chromosomes. Alors ça peut, c'est pas forcément un chromosome dans sa globalité, hein, mais ça peut être un petit fragment de chromosome. Mais en tout cas, elles ont cette instabilité avec le temps en culture. Donc c'est pour ça qu'il faut le gros travail à l'heure actuelle pour aller justement en clinique, c'est de vraiment standardiser à la fois la culture au niveau pluripotence et également contrôler la façon dont elles se différencient, parce qu'on veut s'assurer qu'elles vont donner bien le type cellulaire sur lequel on est intéressé.
Pierre Nassouet, est-ce que l'instabilité de ces cellules IPS, elle vient aussi du fait que ce sont justement à l'origine des cellules adultes qu'on régénère d'une certaine façon, mais qu'une cellule adulte a roulé sa bosse d'une certaine façon et a été exposée à tout un tas de stress environnementaux, le tabac, le stress, la pollution, plein d'autres
choses. C'est-à-dire qu'elle a une mémoire épigénétique. Donc, quand on essaye de reprogrammer ces cellules somatiques en IPS, ben en fait, alors d'ailleurs, certains se sont rendus compte que l'épigénétique pouvait jouer un rôle de barrière, c'est-à-dire qu'il rendait la reprogrammation particulièrement inefficace. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on reprogramme, il y a 1% ou peut-être moins d'1% des cellules somatiques au départ qui deviennent IPS. Et ensuite, lorsqu'on essaie de les mettre en culture, il y a aussi quelque chose qui se cache derrière, qui est que au départ on dit elles ont la capacité d'auto-renouvellement infini, mais ça veut pas dire pour autant qu'elles sont hyper costauds. Elles sont en fait très fragiles, très fragiles. Donc elles se divisent très vite. Mais elle meurt également. Lorsqu'on les cultive dans des boîtes en plastique, dans des laboratoires de biologie, et il y en a une grande fraction qui meurt ou qui se différencie spontanément, etc. Et ça explique, si elle meurt, on peut se dire qu'effectivement d'autres sont atteintes par des aberrations, des mutations génétiques, des aberrations, etc. chromosomales.
Mais on va voir que malgré ces instabilités-là, elles sont source de très très belles études. On y vient dans un instant.
France Culture, la science CQFD,
Antoine Beauchamp.
On poursuit cette émission autour des cellules IPS, des cellules souches à pluripotence induites et autour de toutes ces actualités qu'elle nous propose. Cécile Martina, peut-être qu'on peut déjà exposer les différents types de pathologies vers lesquelles on peut diriger ces cellules souches. En tout cas, pourquoi certains types de maladies sont plutôt ciblés par ces cellules IPS que d'autres?
En termes de thérapie cellulaire, alors, il faut déjà peut-être faire un petit bilan. Alors actuel, donc on disait que les premiers essais avaient commencé 2010 avec les cellules souches embryonnaires humaines, 2013 avec les IPS. On est plus d'une centaine d'essais cliniques à travers le monde. La grosse partie de ces essais cliniques cible la rétine, le cerveau. De façon un peu paradoxale, parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément peut-être l'organe le plus facile à traiter en première intention.
Avec des pathologies comme Parkinson, par exemple.
Des pathologies comme Parkinson, l'épilepsie. Et puis là, depuis les 5 ou les 6 dernières années, on a vu un peu une explosion de pathologies autres. Alors le diabète, le foie, des essais sur le muscle, des cardiomyopathies. Voilà, on a vu une diversité dans les organes qui pouvaient être traités par ces cellules assez impressionnante.
Si on prend l'exemple, on va prendre 3 exemples un petit peu de façon arbitraire, mais Parkinson, pourquoi cette maladie-là pourrait être particulièrement bien ciblée par des cellules souches à pluripotence induite et quels sont les mécanismes finalement qui vont être en jeu?
Finalement, en fait, toutes les pathologies pour lesquelles ces cellules ont un intérêt, ce sont des pathologies pour lesquelles on a une perte de matériel cellulaire. Donc, il faut pouvoir ramener, on ne peut pas corriger par rapport à de la thérapie génique. Par exemple, on va amener un gène médicament. Là, il y a vraiment des cellules qui meurent. On a besoin de les replacer avec des cellules qui vont fonctionner. Et Parkinson, c'est l'exemple type de ce type de maladie. On a une perte très sélective et spécifique des neurones dopaminergiques au niveau du mésencéphale et on a besoin en fait de les ramener et c'est exactement ce que offre la possibilité des IPS ou des ES.
Pierre Nassois, j'évoquais, vous vouliez réagir, non?
Oui, et surtout également le fait il y a des médicaments, des substances, des molécules qui sont utilisées à Parkinson, mais qui sur le long terme se retrouvent complètement inefficaces ou même ont des effets secondaires violent.
Donc c'est pour qui ne peuvent fonctionner que s'il reste encore des neurones.
Ouais.
Mais quand il n'y a plus de neurones, il faut ramener des neurones.
Oui, c'est ça. Et finalement, pour toutes ces situations d'impasse thérapeutique aussi, on commence à envisager ces cellules souches à pluripotence induite. Pierre Nassois, donc, je l'évoquais au début de l'émission, il y a plusieurs études qui sont sorties et qui paraissent régulièrement autour des résultats importants dans le domaine de ces thérapies par cellules souches. Je prends l'exemple là d'une étude parue dans Nature en janvier 2025, conduite par une équipe allemande qui a fabriqué des patchs, tout simplement, avec des centaines de millions de cellules cardiaques qui pourraient aider justement les cœurs lésés à récupérer une partie de leur capacité contractile. Donc voilà, là c'est vraiment intéressant parce qu'on pense à un patch, on pense à justement au patch, au pansement. Alors on peut faire des pansements de cellules souches qu'on va plaquer sur le cœur?
Oui, alors déjà il faut être capable de produire ces cellules souches en assez grande quantité. Les premières maladies, finalement les neurones dopaminergiques de Parkinson qui sont détruits, ils ne sont pas si nombreux que ça. Par contre, si ensuite on veut passer à vraiment à généraliser la médecine régénérative au titre de médecine personnalisée via la thérapie cellulaire, eh bien là, il va falloir produire des quantités absolument énormes. Alors, vous parlez du cœur, je pense le foie, ça doit être à peu près pareil. Un foie humain pèse 1,5 kg, ça représente 1000 milliards de cellules. Donc, il va falloir être capable d'amplifier les quelques cellules souches qu'on a récupérées, qu'on a pu mettre en truc, pour en créer, juste pour un seul patient, 1000 milliards de cellules.
Alors
le cas du patch cardiaque, c'est exactement
ça. Et ça implique justement d'arriver à concentrer toutes ces cellules au même endroit, parce que si on multiplie les boîtes de Pétri, par exemple, pour reproduire les cellules d'un foie entier, ça prend une pièce de 50 mètres carrés, si j'ai bien compris à peu près les estimations. Et on y viendra tout à l'heure, parce que ça concerne directement les travaux que vous menez avec votre entreprise. Cécile Martina, donc je parlais de cette étude-là, ça fait partie de ces nombreuses études qui paraissent autour de ce recours aux cellules IPS. Il y a un autre paru un autre article qui est paru, lui, en novembre 2024 dans The Lancet, qui s'attachait, lui, pour le coup, à des traitements par cellule IPS de la cornée. Là aussi, ce sont des, voilà, on voit tout, avec toutes ces études, finalement, la diversité du recours à ces cellules.
Alors, ce qui commence à être intéressant avec ces études, c'est que, bon, il faut quand même comprendre que c'est un champ qui est encore en balbutiement. Ce sont des études qui sont essentiellement de phase 1, voire 1-2. Donc ce sont souvent des études qui ne visent que à mesurer la sécurité et la tolérabilité du produit. Ce qui commence à être intéressant, c'est qu'on commence à avoir quelques données d'efficacité. Donc ça, c'est généralement ce qu'on appelle les phases 2, voire même les phases 3, sur un plus grand nombre de patients. Et vous mentionniez l'essai sur la cornée. Clairement, il montre une diminution de l'opacification de la cornée après greffe, donc ce qui est très prometteur. Alors, le problème, c'est que voilà, là, on est sur un essai de phase 1-2, donc on est sur 4 patients. On a besoin de voir si c'est quelque chose qui sera observable sur un plus grand nombre de patients. Il y a la question de la bioproduction, il y aura la question de comment conserver ce produit. Ce qu'on voudrait, idéalement, ce qu'on voudrait tous, c'est avoir des produits sur l'étagère. Hein. C'est comme ça que ça se dit en anglais, c'est d'avoir un produit sur l'étagère. On a un patient qui arrive, hop, on peut le greffer immédiatement. Mais ça commence à devenir vraiment très prometteur parce qu'on commence à avoir ces données sur la rétine. Alors, on a parlé de la cornée, il y a le diabète.
Parlons-en du diabète, parce que c'est quand même un enjeu de santé publique mondiale. À quel endroit, justement, ces cellules souches pourraient intervenir dans le traitement du diabète?
Il y a très belles études qui sont faites par une société qui s'appelle Vertex et qui ont montré, en fait, à ma connaissance, ce sont les premiers à aller d'ailleurs vers une phase 3 clinique. Hein, donc là, il est prévu plus de 300 patients. Parce qu'ils ont réussi à montrer que des îlots pancréatiques à partir de cellules souches pluripotentes, de les greffer, et de montrer que sur 11 patients sur 12, ces 11 patients n'avaient plus besoin d'insuline. Donc clairement, l'organe était totalement réparé et les patients étaient débarrassés en fait de la difficulté de devoir s'injecter de l'insuline tous les jours.
Parler d'îlot pancréatique, faut rappeler aussi la subtilité du pancréas, qui est un organe un peu différent des autres, qui lui vraiment ne se régénère pas du tout. Ouais. Et ça, c'est un des drames aussi. Quand on parle de cancer du pancréas, si ces cancers sont aussi rapides et radicaux, c'est parce que on n'a pas la possibilité de régénérer facilement cet organe. On reste ensemble. On va faire une petite pause musicale. Restez avec nous parce qu'on va dans un instant évoquer vos travaux, Cécile Martina et Pierre Nassois. Et on va partir en reportage à Marseille. Et on va parler aussi, bien sûr, des limites auxquelles se heurte encore la recherche autour des cellules souches IPS. Ce sera juste après ça. Searching par Roy Ayers dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre émission consacrée aux récentes avancées dans le domaine des cellules souches et des thérapies liées. et aux recherches fondamentales, évidemment, qui sont autour de ces cellules souches. Pour en parler, nous sommes avec Cécile Martina, directrice de recherche INSERM, co-directrice de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, ISTEM à Évry, pilote du programme national PEPR, biothérapie et bioproduction, et en compagnie également de Pierre Nassois, directeur de recherche CNRS au laboratoire photonique numérique et nanosciences LP2N, à Bordeaux, fondateur de la start-up TriFrog Therapeutics. On en arrive à présent au reportage du jour. Les cellules souches du sang sont déjà utilisées en thérapie depuis plusieurs décennies, notamment pour des greffes de moelle osseuse, mais ce sont des traitements qui présentent de gros risques et qui peuvent parfois entraîner la mort. De nouvelles découvertes sur les propriétés de ces cellules souches pourraient réduire ces risques, et c'est le sujet de notre reportage. Bonjour Loïc Dutoit.
Bonjour Antoine.
Pour ce reportage, vous vous êtes rendu au centre d'immunologie de Marseille Lumini, où a été découverte une interaction entre les cellules souches du sang et une cytokine.
Exactement. Les cytokines, ce sont des substances qui orientent la production de cellules. On connaît bien par exemple l'EPO, l'érythropoïétine, qui favorise la formation des globules rouges qui fixent l'oxygène. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'EPO est utilisé comme dopant dans le sport. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement des cytokines, il faut repartir du rôle des cellules souches. Sandrine Sarrazin, qui est chargée de recherche INSERM, elle aime bien les comparer à des reines abeilles dans leur ruche qui fabriquent de petites ouvrières, des ouvrières qui se spécialisent peu à peu à mesure qu'elles se divisent. Et il y a ainsi toute une pyramide, de la cellule souche du sang tout en haut jusqu'aux globules blancs mangeurs de microbes ou aux plaquettes tout en bas. On pensait que les cytokines agissaient seulement sur cette partie basse de la pyramide, mais l'équipe de Michael Zwiecke, où travaille Sandrine Sarrazin, a découvert que ce n'était pas toujours le cas. Elle s'est intéressée à une cytokine appelée MCSF, qui stimule des colonies de globules blancs pour combattre les infections.
Toutes ces cytokines-là, elles sont plutôt connues pour avoir une action déjà sur les petites ouvrières déjà bien spécialisées.
Pour de l'hyperspécialisation, voilà. En fin de chaîne.
Exactement. Et donc nous, ce qu'on a découvert, c'est que la cellule souche du sang, elle n'est pas une reine complètement sourde et aveugle à ce qui se passe à l'extérieur. Elle est capable de détecter des signaux extérieurs, dont le MCSF, mais probablement plein d'autres, et d'orienter sa production de petites ouvrières en fonction des besoins du coup. Donc s'il y a du MCSF dans les alentours, ça va stimuler la cellule souche du sang et il va y avoir plus de production de petites ouvrières de type mangeurs de microbes. Ça reste encore un peu exceptionnel, les cytokines qui agissent directement sur la cellule souche et qui orientent la production de cellules matures.
C'est un petit peu exceptionnel, mais ça peut être très intéressant pour développer des thérapies.
Oui, tout à fait. C'est exactement la question qu'on s'est posée quand on a fait cette découverte-là. On est allé voir les cliniciens, en fait, pour leur demander « est-ce que ça peut être utile pour quelque chose ?» Et là, on a eu plusieurs cliniciens qui nous ont dit « mais bien sûr, c'est dans le cas des greffes de moelle osseuse qu'on peut avoir besoin d'une molécule comme ça qui vient stimuler la cellule souche du sang au moment où on la greffe pour qu'elle soit tout de suite prête à fabriquer des globules blancs qui permettent de protéger contre l'infection. » Là, je vous montre un petit schéma qui montre ça chez la souris.
En partant justement de ce schéma, on voit qu'il y a une souris du coup à gauche qui est irradiée par un éclair jaune et puis une souris à droite une semaine plus tard irradiée par un éclair gris. Est-ce que vous pourriez expliquer très concrètement comment ça se passe quand on fait une greffe de moelle osseuse?
Il faut d'abord vidanger le système de production des cellules du sang, donc vidanger la moelle osseuse.
Et ça se fait comment?
Eh ben, ça se fait avec un traitement, par exemple une irradiation de la totalité du corps, donc avec des rayons, avec de la radioactivité en fait, ou bien avec des traitements chimiothérapiques.
Dans le processus, comment se fait la greffe?
On vient prélever chez le donneur la moelle osseuse, donc chez l'homme on va le prélever par exemple dans l'aile iliaque, ou bien directement dans le sang.
Seringue.
Voilà, on ponctionne avec une seringue, ou bien on a des méthodes pour mobiliser les cellules souches, les faire sortir de la moelle osseuse, et elles se baladent dans le sang. Et donc là, il suffit de faire une prise de sang, de récolter le sang du donneur. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que ça se fait. Nous, dans les souris, on prend les cellules de la moelle osseuse et on les injecte en intraveineuse.
Une fois que les cellules sont injectées dans la circulation sanguine, elles vont aller elles-mêmes toutes seules se reloger dans la moelle osseuse.
Elles savent exactement où elles doivent aller parce que là, il y a des signaux qui les attirent à cet endroit-là. Et ensuite, elles ont des encres qui permettent de rester au bon endroit.
Elles rentrent directement dans leur maison.
Quoi. Exactement. Alors, elles font un petit passage par la rate pendant quelques jours et ensuite, elles vont coloniser la moelle osseuse, là où elles vont finalement rester et permettre la production des cellules matures à long terme.
Le gros problème pendant tout ce processus-là, c'est qu'il n'y a plus de cellules souches dans la moelle osseuse de la personne.
Il
n'y
a plus de cellules souches, il n'y a plus de progéniteurs. Donc pendant une période chez l'homme de bien deux, trois semaines, les patients sont en ce qu'on appelle l'aplasie totale. Ils sont dans des chambres stériles et ils sont très vulnérables aux infections. Et en fait, ce protocole de transplantation de moelle osseuse, c'est son gros problème, c'est qu'il est quand même très risqué et qu'il y a de gros problèmes d'infection qui peuvent arriver pendant la période d'aplasie et où là, il est très difficile de proposer un traitement aux patients puisqu'ils n'ont plus de cellules immunitaires, donc ils peuvent difficilement combattre, quoi. Et donc du coup, nous, on vient reproduire ces problèmes qu'il y a chez des patients qui attrapent une infection pendant leur phase d'aplasie. On vient le reproduire chez la souris. C'est la deuxième petite flèche grise, là. On vient générer une infection volontaire dans les souris qui sont aplasiques. Et en même temps, on vient mettre ou pas la fameuse molécule, la cytokine MCSF, pour protéger les souris receveuses d'une infection future. Et là, je vous montre le résultat, si vous voulez.
C'est ce que j'allais demander.
Donc ça, c'est une courbe de survie. Vous avez ici le temps en jours, donc on va jusqu'à 35 jours sur l'axe des X. L'axe des Y, c'est le pourcentage de souris qui survivent. Et on a les souris qu'on n'infecte pas, qu'on a transplantées, qu'on n'infecte pas avec une bactérie. Vous voyez, elles restent vivantes. 100% des souris sont vivantes au bout de 35 jours. Les souris qu'on a infectées, c'est la ligne rouge. Au bout de 35 jours, on voit qu'on a 80% de mortalité. Maintenant, on vient rajouter le MCSF. Avec le MCSF, on a 80% de survie, c'est la courbe en bleu ici. C'est très spectaculaire en fait. Et là, on se dit, ça serait quand même très intéressant de pouvoir faire ça chez l'homme, quoi. À un moment, dans nos expériences, on a besoin d'isoler et d'identifier les cellules souches du sang et de les séparer des autres cellules qui sont dans la moelle osseuse. Pour faire ça, on utilise un outil qui est très répandu en biologie et en immunologie en particulier, c'est la cytométrie en flux. Et donc on peut aller là au service cytométrie où on va avoir une dizaine de ces machines-là, à la fois qui permettent de faire juste de l'analyse, donc de la quantification, et puis quelques machines qui permettent de faire le tri. Alors voilà le service cytométrie.
Ces machines très allongées là, c'est ça les cytomètres ?
Ça c'est des cytomètres, tous sont des cytomètres, y compris le plus petit là, ici. C'est l'endroit où on installe l'échantillon. Je viens brancher le tube ici sur l'aiguille. C'est une aiguille qui va aspirer l'échantillon.
C'est comme une seringue reliée à la machine.
C'est une seringue, exactement. Et les lasers, ils sont là, vous voyez. Donc c'est tout un procédé optique qui permet d'envoyer le faisceau laser exactement sur la cellule et de récupérer la lumière qui est émise pour pouvoir quantifier chaque molécule qui est à la surface de chaque cellule.
Au laboratoire, au-delà de cette cytokine, vous avez aussi découvert d'autres propriétés qui sont pour le coup assez étonnantes et qui pourraient amener à des thérapies. Alors même si c'est moins développé que ce dont on a discuté pour l'instant, le potentiel, il paraît assez important.
Mmh. Oui, plus récemment, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que non seulement elles peuvent détecter des signaux infectieux qui viennent de l'extérieur, mais elles peuvent en plus garder en mémoire ces signaux qu'elles ont reçus pour éventuellement répondre plus efficacement si elles reçoivent de nouveau le même signal. Ah donc là, on n'est plus du tout sur une reine complètement sourde et aveugle. Là, on est vraiment sur une reine qui est capable vraiment d'orienter sa production et de transmettre des informations. On est sur un système immunitaire bien plus intégré que ce qu'on pensait. En cas d'infection, la partie production va se mettre à agir en coordination avec la partie effectrice, action directe sur le terrain.
La reine part aussi à la guerre, quoi.
Voilà, exactement, en restant quand même tranquille dans sa ruche, à distance.
Merci beaucoup Loïc Dutoit pour ce reportage. La reine part aussi à la guerre, Pierre Nassois. C'est intéressant ce point que vient de faire Sandrine Sarrazin sur la potentielle mémoire immunitaire aussi de ces cellules souches qu'on va reprogrammer.
Oui, alors ça devient quasiment une question philosophique, quoi. Est-ce que au cours de la reprogrammation, on va perdre toute la mémoire épigénétique du vécu des gens, quoi. Et finalement, en fonction des protocoles dans les laboratoires et tout, on sait pas du tout. Donc ça, c'est pour le côté épigénétique. Vous parlez aussi immunologique. Mmh. Ouais. Donc là, on a parlé jusqu'à présent de la reprogrammation pour l'utilisation de cellules souches dites autologues, c'est-à-dire que c'est les cellules du même patient qu'on reprogramme et qu'on réinjecte. Mais on voit bien que, alors, la reprogrammation, la différenciation, la reprogrammation met environ 30 jours en laboratoire pour la faire. La différenciation va mettre au moins 30 jours aussi, plusieurs mois. Donc ça va faire des coûts absolument importants. Donc maintenant, on est également en train de regarder et de développer, ça c'est un sujet que je crois que Cécile connaît bien, le développement d'haplobanques HLA, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus personnalisés et qui peuvent être, on peut greffer des cellules souches qui vont être acceptées, compatibles avec l'immunité de l'autre patient.
De l'autre patient, Cécile Martina, on en vient là à cette question qui finalement concerne aussi la question de la greffe d'organes, c'est cette question du rejet de ces cellules souches qui viendront de l'extérieur. Qu'est-ce que déjà vous pouvez nous dire du reportage et puis ensuite de cette question-là
Bon, il faut savoir que, à nouveau, moi, je vais parler de mon domaine, à savoir les cellules souches pluripotentes. Les cellules souches pluripotentes, pour l'instant, en clinique, elles sont essentiellement utilisées en ce qu'on appelle en allogreffe. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des cellules d'un autre patient qu'on va amplifier et on va les transplanter chez un patient B. Ça veut dire qu'il faut qu'on place le patient à un moment ou un autre sous immunosuppression. Donc, on crée un risque. Nous, on a vécu ce risque hein, parce que au sein d'ISTEM, il y a l'équipe de Christelle Monville, donc dans l'institut dans lequel je travaille, qui a un essai clinique sur la rétine qui a débuté en 2019. Pouf, 2020,
Covid.
C'est compliqué de convaincre les patients et de leur dire « Est-ce que vous acceptez de vous mettre sous immunosuppression, sachant qu'il y a un virus mortel qui est en train de courir la planète ?» Donc, c'était pas forcément chose facile que de continuer cet essai clinique. Christelle a réussi, mais c'est vrai que c'était pas évident. Donc, se pose vraiment la question de se dire, on a besoin maintenant de pouvoir essayer de greffer les cellules du même patient. Comme le disait Pierre, ça coûte très cher. Alors, il y a une étude au Japon qui avait, il y a quelques essais de greffe autologue qui existent, mais très peu finalement. On estime, il y a une étude qui a montré fin de l'année 2024 qu'il y avait à peu près uniquement 11 patients qui avaient été traités en autologue. Alors pourquoi ? Parce que il y a le temps, Pierre l'a mentionné, il faut à peu près 10 mois entre le moment où on va prendre le tube sanguin et le moment où on va avoir donc fait les IPS, transformé les IPS dans le type cellulaire d'intérêt. Voilà, 10 mois. Il y a un problème de coût. On compte à peu près 800 000 dollars le produit réinjecté à ce même patient. Donc ça fait une...
C'est dans la moyenne des thérapies géniques également. Enfin, c'est des coûts très, 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 très élevés, voilà. Bien sûr. On ne parle pas de
Et puis, il y a surtout un problème. Le premier essai qui a été fait, c'était au Japon. Et il y avait deux patients. Et le premier patient, voilà, on lui a prélevé, l'équipe de Masayo Takahashi a prélevé les cellules, les a reprogrammées, les a transformées en cellules de la rétine, les a réinjectées. Nickel. Deuxième patient, en fait, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Parce que, à cause de l'instabilité dont on parlait, et que les cellules, en fait, étaient devenues instables, et il y avait des mutations qui étaient apparues, et clairement, on ne peut pas prendre le risque de réinjecter des cellules qui ont des mutations. Alors, on ne connaissait pas forcément les conséquences de ces mutations, mais on ne peut absolument pas prendre ce risque.
Ça peut donner un cancer, ça peut donner plein de choses.
Donc ça amène, en effet, la grosse problématique de la réponse immunitaire. Alors, il y a donc les haplobanques. Quelles sont les solutions ? La première solution, c'est les haplobanques. C'est-à-dire, on sait... Alors, on a les cellules du système immunitaire qui reconnaissent grâce à des molécules qu'on appelle des molécules HLA. HLA type 1, HLA type 2. On sait que certaines personnes vont être compatibles avec d'autres personnes. Et alors, on estime, il y a différentes études. Il y avait une étude qui avait montré que si on trouvait les 100 donneurs un peu universels, on pouvait couvrir jusqu'à 80% de la population européenne et américaine. Il y a une banque au Japon qui existe, qui est la banque du SIRA, où ils ont fait 27 lignées d'IPS haplotypées qui sont censées recouvrir, si je ne dis pas de bêtises, environ 50% de la population japonaise. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de les modifier génétiquement pour qu'elle soit invisible au système immunitaire. Et là, alors, avec notamment tout ce qui est technologie CRISPR, est-ce qu'on peut essayer de leur enlever l'expression des molécules qui permettrait au système immunitaire de reconnaître les cellules qu'on va greffer. Donc on commence à voir apparaître, il y a un essai clinique notamment en hématologie avec des IPS où on a les cellules ont été modifiées génétiquement pour échapper au système immunitaire.
Pierre Nassois, si on en vient maintenant à vos travaux respectifs, vous travaillez sur la culture et la production de cellules souches et c'est pas un travail évident. On l'évoquait tout à l'heure, ça demande parfois beaucoup de place. Et vous cherchez justement à réduire tout ça et à encapsuler finalement ces cultures de cellules. Racontez-nous un peu comment vous travaillez et les résultats que vous obtenez.
Ben effectivement, je vous dis et comme vous l'avez dit, il faut à peu près 50 mètres carrés pour avoir suffisamment de cellules pour faire un seul foie, par exemple. Donc on s'est dit simplement, plutôt que de faire ça à deux dimensions, il vaut mieux qu'on le fasse à trois dimensions. Donc l'équivalent, c'est 50 mètres carrés. Ça peut rentrer, en fait, dans une bouteille de 3 litres. Alors comment on fait? C'était une thèse, et c'est Kevin Alessandri, qui est un des deux fondateurs de Trifrog, qui a développé un système de microfluidique. Mm-hmm. Donc l'idée est de créer, par microfluidique, une sorte de capsule de gelée, d'hydrogel, dans lesquelles sont encapsulées des cellules.
On n'est pas très loin de la cuisine moléculaire, là,
absolument.
Je crois.
Absolument. On s'est beaucoup inspiré de ça, ouais. En fait. Après, on l'a beaucoup retravaillé avec de la physique supplémentaire pour faire des choses qui sont plus petites et tout. Et donc, on a commencé par des applications sur le cancer. Mais ensuite, donc Maxime Feilleux, qui était également à l'ISTEM et que Cécile connaît bien, est arrivé et nous a dit « Mais non, il faut absolument faire des cellules souches. » C'est vraiment une plateforme idéale pour la bioproduction, pour la production massive de cellules souches. Et en fait, on s'est rendu compte, on encapsule les cellules souches, elles peuvent elles ont la possibilité de proliférer rapidement et beaucoup, qu'en plus, on avait quasiment pas de mort. Donc, on avait une sorte de temps de doublement de la population qui devenait de plus en plus court. C'est-à-dire que partant de quelques cellules, on pouvait les amplifier beaucoup plus, en produire beaucoup plus, en mettre plus à la disposition de toutes les thérapies cellulaires possibles. Par exemple,
c'est le fait même d'avoir encapsulé ces cellules qui limitait la mort de ces cellules.
Ouais, donc on a essayé de travailler là-dessus après dans le labo. On s'est aperçu en faisant beaucoup de microscopie un peu avancée que ces cellules s'organisaient directement en dans ce qu'on appelle des cystes, c'est-à-dire des petits agrégats qui présentent une cavité. Et en fait, bizarrement, ces cystes ressemblent vraiment étonnamment à l'épiblaste qui est une des étapes dans le développement de l'embryon. Donc en fait, on s'est dit, on a pu reconstituer quelque chose qui était un peu biomimétique. Et en plus, après, on peut vérifier que dans ces capsules, il y a beaucoup moins de dérives génétiques, beaucoup moins d'instabilité, etc. Et c'est ça qui...
Et ces capsules-là, elles peuvent aussi, je crois, double effet qui se coule, si je puis dire, elles peuvent aussi servir à étudier les cancers eux-mêmes, c'est ça?
Oui, alors c'est vraiment utiliser ça comme un modèle de tumeur. Voilà. Et après d'essayer de tester des chimiothérapies possibles.
Bon bah ça c'est formidable. Cécile Martina, vous travaillez sur plutôt des maladies neuromusculaires. Parlez-nous de vos travaux et de ce recours aux cellules souches pluripotentes dans ce cadre-là.
Alors, nous on les utilise, donc nous à ISTEM en fait, on a un axe sur la thérapie cellulaire et puis moi en effet mon équipe, on est plus intéressé sur utiliser ces cellules pour essayer de comprendre les conséquences fonctionnelles et moléculaires de mutations génétiques qui vont être associées à des maladies neuromusculaires. Et c'est essayer de développer en culture des petits modèles. Alors nous, on travaille sur des organoïdes neuromusculaires. Donc c'est ces structures 3D qui ont une partie muscle, une partie motoneurone, donc les neurones qui sont dans la moelle épinière et qui connectent avec le muscle. Et on essaie vraiment de comprendre en quoi des mutations vont affecter la communication entre ces neurones moteurs et les cellules musculaires.
Quelle maladie vous ciblez?
Alors nous, on travaille sur la myotonie dystrophique de type 1, qui est une maladie génétique qui correspond à l'une des maladies les plus fréquentes, parce que généralement on parle de maladies rares, mais c'est l'une des maladies les plus fréquentes parmi les maladies rares, et c'est la forme la plus commune en fait de myotonie chez les patients adultes.
Vous parlez d'organoïdes, ça aussi c'est un terme très à la mode quand on parle de biologie actuellement. Là, dans ce cadre-là, que signifie avoir recours aux organoïdes et, voilà.
Alors, en fait, on a appris avec le temps à réussir à faire des cellules musculaires, à faire des neurones moteurs. Mais on parlait tout à l'heure de la niche. En fait, on réalise quand même que quand on étudie juste ces cellules en 2D, on oublie peut-être l'habitat dans lequel normalement vivent ces cellules, on oublie peut-être un peu la matrice extracellulaire que ces cellules produisent. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'organoïdes, parce qu'on se tourne de plus en plus vers ces outils un peu plus complexes qui nous permettent vraiment de voir en temps réel le développement de structures intercellulaires beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et de pouvoir mieux comprendre en fait comment ces cellules communiquent les unes entre les autres.
On approche de la fin de cette émission. Pierre Nassois, on a parlé tout à l'heure des limites liées au coût de ces thérapies-là. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les quatre gros défis auxquels on doit se confronter, qu'on doit dépasser pour que ces thérapies cellulaires à partir de cellules souches à pluripotence induite soient fréquentes, enfin, en tout cas pas fréquentes, mais soient un peu plus utilisées?
Donc les trois. On a vu que on a très rapidement mis ces thérapies cellulaires sur le marché dès 2013-2014. Il y a eu plusieurs essais. Puis en fait, après, on a l'impression que ça stagne maintenant. Et donc, il faut vraiment. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça avec précaution, parce qu'il y a, comme l'a défini même Yamanaka lui-même, il y a trois gros problèmes, là, on l'a dit, la tumorogénécité, l'immunogénécité et l'hétérogénéité, tout ça. Donc il faut que tout, arriver à un peu uniformiser les protocoles même de différenciation, de reprogrammation. Par exemple, actuellement, il y a Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui a investi massivement dans une entreprise qui s'appelle Retro Bioscience, de manière à coupler intelligence artificielle et biologie pour vraiment disséquer, comprendre profondément les mécanismes qu'ils gouvernent et arriver à les contrôler, et pas que ça reste un peu du point de vue de la recette de cuisine, comme vous disiez.
Cécile Martina, une dernière question sur cette, enfin, si vous pouviez répondre.
Alors,
à cette
question-là. Alors, je pense qu'il y a plusieurs challenges. On a parlé bioproduction. Moi, je mettrais quand même la bioproduction. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui sont
standardiser finalement tout ça.
Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train. Alors, se standardiser au niveau national, au niveau international. Au niveau national, on a parlé du PEPR. Il y a vraiment des initiatives nationales qui se mettent en place. Alors, il y a les PEPR. Il y a aussi le programme The Drug Cell qui a été annoncé la semaine dernière, qui est un énorme programme. À plus de 150 millions qui vient d'être labellisé par France 2030 et qui regroupera notre laboratoire, donc ça on est plutôt content, mais aussi 8 autres leaders en biotechnologie pour aller vers justement une certaine standardisation. On le voit aussi à l'international, la société ISSR, qui est la Société internationale de recherche sur les cellules souches, met en place des groupes de travail pour justement voir comment on fait dans les différents pays? Est-ce qu'on peut essayer de standardiser? Il y a les consentements aussi des patients. Donc il y a quand même pas mal en fait de points encore. Pas mal de défis.
Ça vous donnera l'occasion de revenir à ce micro pour en parler, pour parler de ces réussites. Merci beaucoup à tous les deux, Cécile Martina et Pierre Nassois, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. À présent, on retrouve Alexandre Morales pour sa chronique Avec Science.
Quand et comment les oiseaux sont-ils apparus? C'est un fait aujourd'hui bien établi. Les oiseaux dérivent d'une famille de dinosaures qu'on appelle les théropodes. Si vous avez vu Jurassic Park, vous vous souviendrez probablement des vélociraptors ou du grand T-Rex, deux fameux représentants du groupe. Mais à partir de quand s'est faite la divergence entre le groupe des oiseaux et le reste des dinosaures qui, eux, sont des reptiles? Eh bien, ça, c'est difficile à dire, et jusqu'à présent, le plus ancien représentant connu de la famille des oiseaux était l'Archéoptéryx, un oiseau d'une soixantaine de centimètres avec des ailes et des plumes, capable de voler donc, mais qui conservait des caractéristiques reptiliennes, comme une longue queue osseuse et des dents. Il a vécu à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années, et a été découvert en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. On supposait donc que l'origine des oiseaux devait être légèrement antérieure à cette période, mais notre connaissance de leur différenciation était encore très lacunaire. Une équipe chinoise comble en partie ce fossé avec la découverte de deux nouveaux spécimens. Antoine Louchard est paléontologue au CNRS, au laboratoire de géologie de Lyon. Il est expert des oiseaux fossiles.
Quand on avance dans le temps, après Archéoptérix, les suivants, comme oiseaux vraiment reconnus à part entière comme un oiseau à 100%, dataient de à peu près 120 à 131 millions d'années en Chine. Donc ça fait un saut quand même assez important de plus de 20 millions d'années. Effectivement, la découverte de ces deux ossements sur le même site chinois est liée à la découverte de cette localité il y a plusieurs années et qui s'est révélée une localité à préservation tout à fait exceptionnelle, un petit peu comme Solnhofen en Bavière. Donc cette nouvelle localité chinoise, elle est datée à peu près 148-150 millions d'années, à peu près contemporaine de Solnhofen et Archéoptérix. Et elle a donc révélé depuis plusieurs années des fossiles extraordinaires, notamment de reptiles marins, des dinosaures, et donc nouvellement deux oiseaux, donc ce squelette de Baminornis et puis cette furcula qui... clairement semble appartenir à un oiseau assez dérivé en fait.
La furcula, c'est le nom scientifique de l'os porte-bonheur que les Américains cassent en deux. Vous savez, c'est la fusion des clavicules, ce qui lui donne une forme en V, en U ou en Y. De cet os isolé, on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il ressemble à celui de spécimens d'oiseaux du milieu du Crétacé, donc plus récent, et l'espèce n'a pas pu être nommée. En revanche, le second spécimen est bien plus complet. C'est un squelette partiel, il manque notamment le crâne, mais on possède suffisamment d'éléments pour affirmer qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce d'oiseau, Baminornis zengensis. Il est tout petit, il fait une dizaine de centimètres et est vraisemblablement capable de voler. Ses longues ailes le lui permettent. Et puis, son omoplate est en deux parties, à la manière des oiseaux modernes. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend de l'origine des oiseaux? Eh bien, déjà, cet animal aurait vécu il y a environ 149 millions d'années, à peu près au même moment qu'Archéoptérix, mais dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Et contrairement à Archéoptérix, qui avait une longue queue osseuse, Baminornis, lui, a une queue courte, dont les os de l'extrémité ont fusionné pour donner ce qu'on appelle le pygostyle.
Ce nouvel article, avec la description de Baminornis et son pygostyle, donc cette queue vertébrée très réduite et puis ses autres caractéristiques, au niveau de la ceinture scapulaire aussi notamment, montre l'existence en même temps qu'Archéoptérix, mais cette fois-ci non pas en Europe mais en Chine, d'un groupe d'oiseaux très différent d'Archéoptérix donc, et qui a notamment déjà évolué vers des caractéristiques d'oiseaux bien plus dérivées. Donc ça, c'est un autre résultat très important de cet article, c'est de montrer qu'il y a 150 millions d'années, on avait déjà au moins deux groupes d'oiseaux très différenciés et éloignés l'un de l'autre. Donc automatiquement, ça implique que leur ancêtre commun est un petit peu plus ancien probablement que ce qu'on imaginait, puisqu'il a fallu le temps de cette différenciation et de cette diversification. Et donc, ça permet de penser qu'il faut peut-être rechercher leur ancêtre commun et donc les tout premiers oiseaux à une période un petit peu plus ancienne que ce qu'on pensait avant, qui pourrait peut-être remonter plus près du Jurassique moyen, peut-être 25 ou 30 millions d'années avant Archéoptérix, en fait.
Ça voudrait donc dire que l'ancêtre commun à tous les oiseaux aurait vécu il y a environ 170 ou 180 millions d'années. Mais pour avoir une estimation plus précise, il faudra trouver d'autres spécimens, alors on croise les doigts. Quoi qu'il en soit, on ne trouvera jamais le moment précis où des dinosaures sont devenus des oiseaux. L'évolution est un continuum avec des transformations progressives et les classements en groupe et en famille sont bien sûr arbitraires. La limite fixée par les chercheurs à la classification des oiseaux, c'est grosso modo la présence d'ailes plumées permettant le vol, mais c'est une définition qui peut évoluer, gagner en précision au fil des découvertes.
Merci beaucoup Alexandre Morales, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Tom Umdonstock, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ali Ruyère-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Bruno Sansini, Noémie Eliazor, Lou Anget, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. Vous pouvez réécouter la science CQFD sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.